Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Psychoserie. Alors, Psychoserie, c'est une émission qui parle de psychiatrie, de psychologie et de la société. On est en onde tous les dimanches à 11h30 à l'antenne de Chiz 94.3. Et l'émission est également disponible en balado-diffusion. Et pour en savoir plus sur l'émission, je vous invite à aimer notre page Facebook à Psychoserie, P-S-Y-C-A-U-S-E-R-I-E. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter auprès de votre médecin ou encore du Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un maintenant, vous pouvez appeler le Centre de prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Amina Otmani.
Bonjour Étienne.
Aujourd'hui, on parle de santé mentale et d'accès aux psychologues dans le système public. On a deux invités qui s'intéressent beaucoup à cette question-là et qui ont une expertise dans le domaine. Donc, tout d'abord, on a avec nous aujourd'hui Dr. Karine Gauthier, qui est psychologue et neuropsychologue depuis 2003. Elle est porte-parole de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, qui est un organisme à but non lucratif et qui a comme objectif d'augmenter l'accessibilité aux psychologues au sein du réseau public.
On reçoit également Dr. Labbé, qui est pédiatre depuis 2002. Elle pratique actuellement à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Elle a notamment participé à la commission parlementaire sur la surmédicalisation des enfants pour le TDAH, puis elle est allée exposer la situation à la population à la populaire émission « Tout le monde en parle ».
Donc, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Donc, peut-être avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous demanderai un peu là, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux enjeux de santé mentale, plus particulièrement dans le contexte actuel de la pandémie. Peut-être que je commencerai par le docteur Labbé.
Bien, en fait, les problèmes de santé mentale étaient existants avant la pandémie, mais moi, je travaille avec les jeunes et puis on a vu une nette augmentation là avec la pandémie, plus des problèmes là d'anxiété surtout. Et aussi, ce qu'on a vu énormément qui était inhabituel, là, c'est plusieurs hospitalisations pour des troubles alimentaires chez les jeunes et de très jeunes. Alors, habituellement, là, c'est plus nos adolescents et on en a vu là, dès l'âge de 10 ans. Alors, ça nous a tous marqués de voir là, cette augmentation-là là, de troubles alimentaires là, chez les jeunes.
Et puis, de votre côté, docteur Gauthier?
Oui, nous, c'est ça, on a commencé nos démarches bien avant la pandémie, puisque l'accès aux services, aux soins psychologiques, aux services des psychologues devient de plus en plus limité dans le réseau public. Donc, on voit de plus en plus des cas qui sont plus lourds, qui auraient pu avoir de l'aide avant. Donc, on s'est dit avant qu'il soit trop tard, finalement, on va essayer de parler de la situation pour tenter de la régler. Puis là, avec la pandémie, bien nous aussi, on observe, comme Dr Labbé, là, une augmentation des problématiques là, chez les jeunes qu'on suit. Moi aussi, je travaille avec des enfants, des adolescents principalement, mais les psychologues qui travaillent avec des adultes aussi, ils ont même eu des questionnaires qui démontrent que les patients, c'est ça, que les clients là, plutôt vont moins bien avec la pandémie, des problèmes d'anxiété, de dépression, de somatisation, de troubles alimentaires qu'on observe.
Puis, vous diriez qu'avec la crise sanitaire actuelle, quels seraient les principaux enjeux qui concernent la santé mentale chez les jeunes actuellement, là, que vous pourriez ressortir?
Bien, c'était des enjeux qui existaient avant, là, mais c'est beaucoup des enjeux d'accessibilité à des services plus spécialisés. Alors, c'est difficile pour des jeunes déjà d'avoir un rendez-vous en pédiatrie. Même moi qui ai fait je reçois toutes les demandes de consultation de la part des médecins en médecine familiale et ils ont une certaine priorisation là, avec le CRS. RDS, là, qui appelle. Alors, on a A, B, C, D, E. A pour être vu très rapidement dedans de 3 jours et E être vu en dedans d'un an. Alors, même chez les pédiatres, à peu près tous les troubles là, les troubles scolaires, TDAH, anxiété, dépression, sont cotés E. Ce qui veut dire, tu sais, comme un an d'attente. Moi, je trouvais ça épouvantable parce que je me dis, déjà chez un enfant, un an, c'est énorme. Qu'est-ce qui fait qu'on ne priorise pas les problèmes de santé mentale davantage? Pourquoi on priorise toujours la santé physique? Il faut dire que nous, comme médecins, on est formés pour la santé physique tout d'abord. À l'université, quand on fait notre cours, on a environ 95 % de notre cursus là, qui est axé sur la santé physique et très peu de temps est passé sur la santé mentale. Alors, notre priorité, c'est vraiment la santé physique. Mais quand on arrive en pratique, on se rend compte très, très rapidement que dans le fond, quand on est en clinique externe, les problématiques qu'on voit chez nos jeunes, il y a plus de 50 % de consultations là, qui sont pour des problématiques de santé mentale. Alors, l'accès déjà aux médecins n'est pas rapide pour aller voir un spécialiste comme un pédiatre. Et si l'enfant a besoin de d'autres soins, de voir un psychologue, bien là, Karine va pouvoir nous en reparler tout à l'heure, mais on n'a pas d'accès au niveau public là, rapidement. Tout doit passer par la base. Alors, on doit aller consulter au CLSC en premier. On va avoir un travailleur social qui va nous être attitré éventuellement. Et c'est lui qui va décider par la suite si on peut voir un psychologue ou pas. Et ça, c'est quand il y a un psychologue qui est disponible dans le CLSC, parce que malheureusement, souvent, il n'y en a même pas. Alors, c'est l'enjeu principal, c'est d'avoir accès aux services. Qu'est-ce qui est le plus facile d'accès, c'est la médication. Et c'est ça qui est troublant et qui qu'on réalise là, finalement que beaucoup, beaucoup de jeunes sont médicamentés, que ce soit pour le TDAH, hein, vers l'adolescence, on a 15 à 20 des adolescents qui sont médicamentés et c'est la même chose pour les troubles anxieux.
Et de 15 à 20 % c'est pour tout trouble de santé mentale confondu.
Ben, pratiquement, oui, parce que c'est ça, chez les filles, il y avait des statistiques là, qui sortaient dernièrement là, qui nous disaient que chez à la fin de l'adolescence, là, il y avait pratiquement là, 15 à 20 des jeunes filles là, qui étaient médicamentées pour l'anxiété. Puis pour le TDAH, c'est à peu près la même chose aussi qu'on retrouve.
Docteur Gauthier, on a parlé dans les médias récemment qu'il y aurait une exode des psychologues du public vers le privé ou encore des nouveaux professionnels qui viennent tout juste de recevoir leur diplôme et qui choisissent davantage d'aller dans le réseau privé, davantage que dans le public. Est-ce que vous pourriez commenter sur ça?
Oui, c'est un phénomène qu'on observe depuis longtemps, là, depuis plus d'une décennie, mais qui s'accélère pour plusieurs raisons. Mais effectivement, c'est à deux niveaux, vous l'avez très bien nommé, c'est un problème d'attraction, donc arriver à attirer les finissants, les gens qui terminent leur doctorat, les étudiants pour qu'ils viennent travailler dans le réseau. Et puis aussi, on voit que les professionnels partent. Le taux de rétention, il est très faible, là, même dans les documents, on l'observe sur le terrain, mais même dans les documents du gouvernement, le taux de rétention est très faible. Beaucoup, beaucoup de départs avant l'âge de 50 ans quand on commence à travailler à peu près à 30 ans. T'sais, c'est pas pour prendre la retraite, c'est vraiment pour s'en aller, t'sais, travailler dans le privé, c'est ça qu'on observe. En plus, dans le document du gouvernement, il explique que les gens restent psychologues. Tu sais, c'est pas pour changer de profession. Habituellement, les gens, là, c'est très stable. Si tu deviens psychologue, tu fais une carrière comme psychologue. C'est juste que les gens migrent vraiment vers la pratique privée. C'est ça, 75 % présentement des étudiants là, qui choisissent d'aller dans le privé directement après leurs études. Avant, c'était plus graduel. Les gens venaient dans le réseau pour avoir l'expérience. Puis après quittait, mais là maintenant c'est direct. Puis on voit que à cause de la pénurie dans le réseau, il y a moins de place pour former des étudiants aussi. Donc il y a plus en plus d'étudiants qui vont faire des stages dans les cliniques privées. Donc après de les attirer dans le réseau, là ils n'ont jamais été exposés finalement là, au réseau. Ça aussi c'est un autre problème que si on règle pas la pénurie, ben ça va continuer. C'est comme un cercle vicieux qui fait en sorte que d'attirer les psychologues, ça devient très très difficile.
Pour la formation en psychologie, le gouvernement exige un doctorat, comme c'est exigé pour les médecins. On a un doctorat, mais c'est pas la même forme de doctorat tout à fait là. Mais bref, le nombre d'années d'études d'un médecin est comparable au nombre d'années d'études d'un psychologue. Et bien franchement, je peux vous dire que comme médecin, on est très gâté au niveau de nos conditions salariales et de notre autonomie professionnelle. Et ayant connu ça et sachant que c'est disponible, je ne connais pas beaucoup de médecins qui iraient travailler au public à 33 $ de l'heure sans autonomie professionnelle.
C'est deux enjeux, là, puis il y a un sondage qui a été fait auprès des psychologues, là, plus de 1700 psychologues, donc c'est un sondage du réseau, là. Donc c'est un sondage très représentatif, là. Puis la raison numéro un pour laquelle les gens travaillaient pas à temps plein ou s'en allaient dans le privé, tu sais, qui travaillaient dans le privé ou qui partaient finalement, c'était vraiment par rapport au salaire. Donc c'est ça, ils voient le 33 versus le 120. C'est sûr que c'est pas quatre fois plus parce que les avantages sociaux, mais quand même, on a fait un sondage, puis on arrive, tu sais, qui a été fait avec un actuaire, là, donc vraiment, tu sais, avec les rapports d'impôts, puis tout ça, puis on arrive à 27% quand même de différence, là, au niveau du salaire quand toutes les variables sont considérées. Donc, c'est quand même majeur, là, comme écart. Puis le deuxième aspect, c'est l'autonomie professionnelle, qui, malheureusement, on s'en va pas dans la bonne direction. On avait beaucoup avant, puis de plus en plus, particulièrement avec l'arrivée du PQPTM, on limite plus que l'attente est longue, plus qu'on essaie de dire, OK, bon, ben là, tu sais, moins de rencontres, faites ça plus vite. OK, ben des auto-soins, plein de choses qui font en sorte que des appels de courtoisie, tu sais, que les gens, les psychologues se font imposer des choses qui sont comme, OK, non, c'est contre mon éthique professionnelle, vraiment, là. Donc, il y en a qui démissionnent, là. Le ministre Carman nous avait demandé de faire un sondage parce qu'on lui a dit qu'il y en a qui démissionnaient. On en a fait un et on a des noms de gens qui sont démissionnés, tu sais, c'est confidentiel, évidemment, mais de noms de gens qui ont démissionné à cause de la mise en place de ce programme-là qui brime beaucoup l'autonomie professionnelle.
Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que le PQPTM?
C'est le programme québécois pour les troubles mentaux. Donc, c'est un programme à la base qui visait d'augmenter l'accès à la psychothérapie. Là, c'était présenté comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, c'est que puis les gens qui c'est pas implanté partout au Québec encore, à cause de la pandémie, il y a eu des retards, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça retarde l'accès à la psychothérapie finalement, parce que c'est par étapes, c'est un programme par étapes. Donc c'est en premier, ça va être les auto-soins, application. Après, ça va être des groupes.
Les auto-soins, Karine, est-ce que tu peux juste nous le dire? Un peu, est-ce que c'est comme un genre de tutoriel sur comment te traiter toi-même?
C'est ça, OK? Donc c'est, tu sais, moi, je vois ça, là, et mes collègues, là, on voit ça plus comme un outil de prévention, tu sais, qui devrait être disponible pour tout le monde. Tu commences à voir que, oh, ça va pas, tu sais, t'es plus stressé, tu deviens, je sais pas, un peu plus, tu sais, déprimé ou quoi que ce soit. Un accès qui, tu sais, des documents qui peuvent être disponibles à tout le monde comme plus prévention. Mais quand t'es rendu à demander de l'aide à un professionnel, que tu sais, que tu vas voir ton médecin, puis tu dis, OK, là, ça va plus du tout, j'ai besoin d'aide, ou que t'appelles à l'accueil psychosocial de ton CLSC parce que tu veux de l'aide. Habituellement, c'est parce que tu as essayé beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'on, tu sais, toutes les émissions, toutes les informations, les livres qui sont écrits, les gens, habituellement, ils ont essayé beaucoup de choses avant de se rendre. C'est dur de demander de l'aide, là, au niveau psychosocial. Là, il y a encore des tabous puis tout ça. Puis là, ben, la personne prend son courage, là, puis demande de l'aide, puis là, on lui offre des auto-soins. Puis je sais pas si vous avez lu l'article, là, qui a été écrit, c'était la semaine passée, par trois travailleurs sociaux, là, qui ont gardé l'anonymat pour pas perdre leur travail, mais qui expliquaient la pression qu'il y avait pour que les gens acceptent les auto-soins, pour que les gens, après, s'ils refusent, qu'ils acceptent les groupes, qu'il y avait plein d'appels à faire par jour, fait que c'est pas des appels très longs. Si la personne dit, ah, ça va bien, OK, bon, ben, on le, tu sais, plus besoin, tu sais, on l'enlève de la liste d'attente. Moi, je pense à mes patients que, tu sais, souvent, tu sais comment ça va, ben ça va bien, mais tu sais, ça ferait comme 35-40 minutes que là, ça sort, puis des fois, ça peut sortir, tu sais, j'ai des idées suicidaires, là, puis je me suis coupée, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, même avec moi qui connaissent bien, c'est pas facile de s'ouvrir, là, sur vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, ils se font appeler par une inconnue qui est super pressée, qui a plein d'appels à faire par jour, puis qui ça va, comment ça va, tout ça, ok, ça va, ok, bon, ben, parfait, je ferme le dossier. Ça m'arrive, moi, des fois, de référer, puis c'est des cas vraiment qui ont besoin d'aide, et puis au CLSC, puis ils me disent, ah, ben, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que j'étais correct, puis tout ça, donc ça, c'est très, très malheureux, là.
Autrement dit, ce que tu dis, c'est que quand on entend dans les annonces, les publicités du gouvernement qui disent, si ça va pas, n'hésitez pas à appeler le 811, si on appelle le 811, il va y avoir quelqu'un qui va nous répondre, qui va nous suggérer des auto-soins. Si on n'accepte pas, il va nous suggérer vraiment une rencontre en groupe. Et puis, si on n'accepte pas...
Oui, c'est ça. Habituellement, ça serait la référence qui va être faite au CLSC. Là, il y a une intervenante qui va contacter la personne. Puis, cette intervenante-là va essayer de suggérer les auto-soins la plupart du temps, les groupes. Après, si c'est pas suffisant, ça va être plus une approche individualisée comme plus travailleuse sociale. Le psychologue est vraiment là, la dernière étape. Fait que ce que les gens nous disent sur le terrain, les psychologues sur le terrain, ce qu'ils nous disent, c'est que quand les patients arrivent là, ils vont pas bien là, tu sais, puis il a fallu qu'ils persistent dans un système qui est pas facile, puis souvent quand tu vas pas bien, mais t'as pas vraiment l'énergie pour te battre, puis te dire ok, bon ben j'ai essayé quelque chose, ça a pas marché, fait que je suis encore capable d'essayer quelque chose d'autre, puis en plus ça implique des changements d'intervenants, des changements de personnes à qui tu rencontres, à qui tu t'exposes puis t'expliques là tes enjeux affectifs, tu sais, puis ça aussi c'est très difficile. Donc le taux d'abandon là, parce que ça a été mis en place dans d'autres pays, le taux d'abandon est très élevé dans ces programmes là et le taux d'épuisement professionnel des intervenants aussi qui sont comme on leur demande plein de choses, tu sais, dans les premières étapes, puis à un moment donné si la personne, ça peut être utile pour certaines personnes qui ont des troubles qui sont encore fonctionnels, qui ont des troubles qui sont vraiment légers, puis tout ça, tu sais, c'est pas dire qu'on est contre les groupes, on est contre ben les auto-soins, sincèrement, ça c'est plus de la prévention là, parce que quelqu'un qui demande de l'aide, je suis comme, tu sais, ou quelque chose qu'on peut donner en attendant que la personne ait de l'aide, tu sais comme, mais souvent c'est pas comme ça que ça se passe là.
Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. C'est une option, étant moi-même résident psychiatrie, une option qui est de plus en plus souvent proposée, des thérapies de groupe accompagnées soit par un psychiatre ou un psychologue. Quelle est votre perspective à vous deux sur cette modalité thérapeutique?
Bien, je pense que, dans le fond, ça peut être très utile là, selon les problématiques. Tu sais, comme pour la douleur chronique, comme première option, je sais que ça l'aide beaucoup, mais des fois c'est pas suffisant. Faut que l'autre option plus individualisée soit disponible aussi. Tu sais, c'est ça que des fois qui est plus difficile. Donc oui, là, c'est pas qu'on est contre les groupes, c'est juste qu'il faut que ça soit bien fait, que ça soit fait d'une façon avec les professionnels qualifiés, tu sais, pour le faire. Là.
Puis si on y va plus macroscopiquement, là, ça serait quoi les avantages que le public pourrait offrir versus le privé, autre que le critère économique, là, que ça soit dans l'offre de service ou dans, par exemple, l'expertise qu'on retrouve au public versus le privé qu'on retrouverait pas? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Il y a certaines populations qui peuvent pas être prises en charge par les psychologues du privé, puis c'est pas relié à la compétence ou l'expertise, parce que la plupart des psychologues travaillent, tu sais, la même personne va travailler dans le privé et dans le réseau, là, parce que la plupart travaillent à temps partiel dans le réseau pour travailler dans le privé. Donc c'est pas du tout une question de compétence, mais c'est une question d'équipes multidisciplinaires qui sont disponibles dans le réseau. En douleur chronique ou en trouble alimentaire, c'est des enfants ou des adultes qui ont des problèmes de santé physique. Donc, il va y avoir un médecin, une physiothérapeute, une travailleuse sociale, une infirmière, plus la psychologue, des fois avec les enfants, les psychoéducatrices, qui peuvent toutes travailler auprès d'une même personne finalement, parce que la personne, c'est vraiment ça qu'elle a besoin. Donc ça, c'est pas offert dans le secteur privé. Puis une autre chose, c'est le contact avec la personne qui réfère, avec le contexte aussi. Comme si on parle, mettons, d'une psychologue qui est dans une école, dans un monde idéal, là, qui aurait du temps pour faire la psychothérapie, ça existe, mais c'est rare, mais que la psychologue qui peut parler à l'enseignante qui l'a référé, par exemple, puis aller observer dans la classe, parler à la psychoéducatrice, être impliquée auprès de l'enfant, puis tout ça, c'est excessivement riche. Puis dans le réseau, vu que les cas sont plus, tu sais, plus lourd, plus complexe. Il y a aussi du temps, beaucoup de temps quand même qui est libéré pour des consultations, tu sais, des consultations cliniques, des rencontres d'équipe, puis tout ça. Ce qui n'est pas le cas dans le secteur privé. Donc, puis la plupart du temps, dans les cas plus complexes, c'est absolument essentiel que, tu sais, que les gens se parlent. Donc, il faut pouvoir le faire sans dire, OK, mais je suis pas payée, là, faut, tu sais, j'ai pas le temps de faire ça. Donc le réseau offre, c'est ça, des services, tu sais, des expertises pointues, mais aussi la possibilité d'avoir des communications entre les différents acteurs là, qui tournent autour d'une personne.
Puis justement, pour dans les milieux scolaires, là, il y a la statistique qu'il y aurait un psychologue pour 2000 élèves. Est-ce que c'est un bon ratio? Est-ce que c'est un ratio insuffisant? Puis est-ce que ces psychologues arrivent quand même à soutenir dans une certaine mesure les étudiants qui sont dans le besoin d'une psychothérapie?
Non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Ils arrivent à peine à faire... En fait, les psychologues scolaires ont le mandat de faire l'évaluation, entre autres pour nos TDAH. Alors, ils sont ceux qui doivent faire cette évaluation-là si on pense là, qu'il y a un TDAH chez un enfant. C'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de faire parfois. Parfois, ils peuvent même pas l'offrir aux élèves qui en auraient besoin. Puis pour ce qui est de vraiment une psychothérapie, moi, j'en connais pas d'enfants là, qui ont pu avoir ça via l'école. C'est impossible. Puis, ce qu'on entend des psychologues qui travaillent dans les milieux scolaires, c'est qui finalement ils sont pas contents parce qu'ils sont pas capables de faire le travail qu'ils voudraient faire, puis ils voient qu'il y a des besoins pour lesquels ils pourraient aider, mais ils ont pas le temps pour le faire. Quand on parle un psychologue pour 2000 élèves, et c'est souvent plusieurs écoles, c'est tout à fait inadéquat et insuffisant.
Quelles sont les choses que l'on devrait changer, outre que les conditions salariales et les conditions de travail des psychologues?
Mais moi, je réponds pas tout à fait à ta question, là, mais je pense que comme société démocratique, tu sais, comme on doit se positionner. Dans les années 70, on a décidé d'instaurer la RAMQ pour la santé physique. Alors, les gens bénéficient de ce programme-là et ont des soins illimités en santé physique. Ça l'a pas suivi du côté de la santé mentale. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on doit vraiment se positionner comme population et se demander quelle place on veut donner à la santé mentale dans le réseau public. Est-ce qu'on veut continuer comme tel? Présentement, il y a 6 % du budget annuel de la santé qui est octroyé à la santé mentale. C'est nettement insuffisant pour les besoins de la population actuelle. Est-ce qu'on veut poursuivre dans cette voie-là? Ben là, à ce moment-là, on fait rien puis il n'y a rien qui va changer. Sinon, moi, de l'extérieur, je ne vois pas comment on peut faire autrement que, en fait, les psychologues du public font partie d'un grand, grand groupe de plusieurs là, professions au sein du gouvernement. Et ce sont tous des métiers qui ont soit une technique, un bac. En fait, les psychologues sont les seuls à détenir un doctorat. Je pense qu'il faudrait avoir une volonté politique de les retirer de ce syndicat-là pour pouvoir ensuite le négocier là, de meilleures conditions pour eux. Ça, c'est une première chose. Puis, si la population va dans le sens de on offre davantage de services en santé mentale, oui, il faudrait idéalement, dans un monde idéal, restructurer ça, voir, bon, est-ce qu'il y a des abus? Et oui, on le sait qu'il y a des abus au niveau de la consommation dans les soins physiques. Comment on réorganise ça? Alors, c'est énormément de travail, mais il faut commencer un jour. Et je pense que c'est en se posant la question maintenant maintenant, puis en l'abordant maintenant, qu'on peut tenter de voir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans.
Est-ce qu'il existe en ce moment d'autres modèles structuraux différents du PQ-PTM, mais un peu similaires en ce sens-là, qui permettraient une certaine organisation des soins de santé en santé mentale?
Mais c'est une étude qui a été faite en Allemagne, là. C'est auprès de quand même plus de 22 000 personnes où ils mettaient vraiment l'accès à la psychothérapie dans le réseau public, là, tu sais, plus accessible. Puis les psychologues avaient vraiment le choix de l'approche aussi qu'ils voulaient. Il y en avait comme presque 50 % plus cognitivo-comportemental, un autre psychodynamique. Il y avait même de la psychanalyse, comme 5 % de psychanalyse. T'sais, c'était vraiment comme selon l'approche du psychologue, le besoin de la personne aussi. Là, souvent, c'est des approches intégratives. Puis, ils n'ont pas mis de limite au niveau du nombre de séances non plus. Donc, ça allait, en moyenne, c'était 31 séances, mais pour certains, ça allait jusqu'à 95 séances. Puis, ils ont vu des effets là, majeurs au niveau de la réduction des coûts. Tu sais, tantôt, quand on parlait, OK, il faut regarder, est-ce qu'on est prêt à investir plus en santé mentale? Bien, dans le fond, la question, c'est plus, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas investir parce que ça coûte cher pour investir? Dans le fond, il y a des réductions de coûts. Donc, les contribuables sauveraient de l'argent. Là. Nous, nos dépenses, on en sauverait même en un an, les études montrent. Là, tu sais, que c'est rapide. Là, donc, c'est pas une grosse question de, OK, où est-ce qu'on va prendre l'argent dans la santé physique pour la mettre? Elle est déjà utilisée. Les gens vont déjà les médecins, mais ils n'ont pas. Fait que ça coûte cher. Tu sais, mais pour un problème de santé mentale, ils vont à l'urgence, ils sont hospitalisés, ils vont voir leur médecin. Donc, il y a déjà tous ces frais-là qui sont engagés. Puis l'étude démontrait, c'est ça, une diminution là, de 42 % des jours de maladie, puis de près de 22 % des coûts d'hospitalisation là, quand la psychothérapie était offerte aux gens qui en avaient besoin. Donc, puis c'est pas la seule étude. Là. Les études montrent au Québec, c'est pour 1 $ investi, on sauve 2 $ là, tu sais.
Donc, juste pour être sûr que je comprends bien votre raisonnement, c'est que ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que d'avoir plus de services en santé mentale, plus de psychologues, c'est un investissement qui va se payer en lui-même parce qu'on va réduire les coûts dans d'autres branches du système de santé, comme par exemple les soins à l'urgence. Et autrement dit, et globalement, on va avoir une société qui est en meilleure santé mentale, donc moins de congés maladie, moins de pertes de productivité dans l'économie en général. Est-ce que c'est un peu ça que vous nous dites?
Mais c'est exactement ça.
Pensez-vous que ce manque de ressources-là se transforme dans une surprescription de médicaments pour prendre en charge des problèmes dont vous ne pouvez pas référer nulle part, autrement dit?
Moi, j'en suis convaincue. C'est sûr que nous autres, comme médecins, quand il nous arrive, puis il y a une grande souffrance, la seule chose qu'on a à leur offrir rapidement, c'est une pilule. Alors, puis la pilule peut fonctionner pour en période aiguë, peut aider, mais ça ne réglera pas le problème de base. Alors, moi, je pense que oui, le fait qu'on manque de services en santé mentale va amener une surmédicalisation des gens. Puis encore là, c'est toute une question là, tu sais, comme de société là, qu'il faut se reposer à la base. Là. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société, justement, d'avoir 20 % de notre population jeunes, là, on parle d'adolescents là, sous psychotropes, que ce soit pour le TDAH ou pour l'anxiété.
Donc, j'aimerais vous remercier, vous deux, Dr Labbé et Dr Gauthier, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous à Psychodirect.
Merci beaucoup.